on peut le lire, oui.
Alors, d'après le dictionnaire Larousse, alors il y a deux parties, il y a décroissance et décroissant. Mm-hmm. Décroissant étant substantivé, c'est-à-dire que décroissant c'est un adjectif, hein, c'est celui qui décroît, mais donc ça devient un décroissant. Alors décroissance, d'après le dictionnaire Larousse, c'est une action de diminuer progressivement en intensité, en quantité, etc. Cette définition ne prend pas en compte l'origine de l'action, ce qui signifie que la définition lexicale de la décroissance est ici celle de la constatation objective d'un état qui décroît, quelle que soit la nature de la dynamique interne du processus, quelles que soient les raisons qui font que cet état décroît. Mmh. Ça, c'est d'après le Larousse. D'après Nicolas Georgescu-Roeggen, Roeggen, ce mathématicien et économiste, qui a le premier parlé du concept de décroissance aux alentours des années 1970, plus précisément à partir de son ouvrage scientifique majeur qui s'appelle The Entropy Law and Economic Process, paru en 71 et qui a été résumé en 79 dans un opuscule qui s'appelle La décroissance ou Demain la décroissance. Il y a plusieurs titres qui étaient traduits par Greenwald et Evans, où NGR donc montre que la décroissance du système industriel est inéluctable du fait de l'application des lois de la physique et notamment des lois de la thermodynamique, eu égard à la raréfaction des ressources naturelles finies. Dans un autre ouvrage qui s'appelle Energy and Economic Myths, il dénonce également certains mythes économiques, dont celui d'une production industrielle qui serait exemptée de toute pollution. Selon Roeggen, le système industriel ne peut éviter la pollution tant qu'il fonctionne, il ne peut pas non plus éviter sa décroissance à terme. Alors, ça, c'est la décroissance vue par Roeggen. Alors, certaines mouvances se proclamant décroissantes. Pour eux, c'est une idéologie. Alors, on voit tout de suite que là, tout ce qu'on vient de dire, ce n'est pas une question d'idéologie, hein, c'est une question d'équation physique. Pour certaines mouvances décroissantes, c'est une idéologie qui se donne pour objectif de changer le mode de vie actuel, dénoncé comme étant culturellement néfaste, le changer par un mode de vie meilleur, apportant la joie de vivre. Alors, à telle enseigne le journal La Décroissance, dont le slogan c'est la joie de vivre, décroissance, la joie de vivre, grâce à la mise en place de mesures de nature à faire diminuer volontairement le produit intérieur brut, le PIB de la collectivité, et de réduire, voire d'annuler, un certain nombre d'externalités négatives de la croissance, mais au sein d'un système capitaliste qu'on ne touche pas, et un système oligocratique qu'on ne touche pas non plus. Voilà. Alors, maintenant, d'après les promoteurs du capitalisme vert. Alors, le capitalisme vert, c'est une branche spécifique du capitalisme qui est chargée de récupérer tout type de tendance décroissante ou écologique. Alors, d'après les promoteurs du capitalisme vert, la décroissance, c'est un argument économique permettant de développer des activités lucratives censées l'éviter, c'est-à-dire censées éviter la décroissance et permettre d'instaurer une croissance verte. Donc, les promoteurs du capitalisme vert, ils disent, attendez, la décroissance, on va éviter. Il y en a qui disent qu'il faut décroître. Non, ce n'est pas la peine de décroître. Nous, on va faire une croissance verte. Parce que, alors ça valide encore plus l'idée reçue des décroissants volontaires. Les décroissants volontaires, disent qu'il faut décroître parce que la croissance crée des externalités négatives. Alors, réchauffement climatique. Bon, c'est devenu l'argument numéro un. Et le capitalisme vert dit non, la croissance ne crée pas d'externalités négatives. Le réchauffement climatique, on va le régler. On va le régler. Voilà. Et donc, on va pouvoir continuer la croissance verte. Alors, maintenant, autre interprétation de la décroissance, puisqu'il s'agit en fait d'un glossaire contradictoire. D'après ce que nous conviendrons d'appeler les imposteurs de la décroissance et dont nous aurons l'occasion de parler abondamment par la suite et qu'il est inutile de citer nominativement pour l'instant. Alors, d'après les imposteurs de la décroissance, c'est une technique politicienne utilisant le mot magique de décroissance en tant qu'argument de propagande permettant d'élargir sa base électorale par l'apport de bulletins de vote d'un certain nombre de similés décroissants. Alors, bon, j'ai dit que ce n'est pas la peine de les citer, mais enfin, on voit tout de suite, hein, aujourd'hui, ils s'en créent un par jour, hein. J'ai parlé de défi de bateau, voilà une impostrice de la décroissance. Ensuite, d'après les effondristes ou collapsologistes, la décroissance, c'est une idée selon laquelle, là c'est une idée, là, c'est plus une idéologie, selon laquelle la décroissance est une résultante inéluctable du processus industriel et qu'elle constitue la première phase, plus ou moins rapide, d'un effondrement sociétal également inéluctable. Alors, les représentants effondristes, hein, c'est bien, il y a alors le plus connu, c'est Yves Cochet, qui bon a viré sa cutie, il est passé de écolo ELV. Bon, ça fait un moment déjà que il était plus en odeur de sainteté. Hein. Alors Yves Cochet, il a quand même été ministre de l'écologie sous Jospin, hein. Et il a été 2 ans ministre de l'écologie. Voilà. Ensuite. Bon, on a Pablo Servigne, et puis moins connu, mais à mon avis le plus intelligent, le plus intéressant, mon ami Vincent Mignereau. Voilà. Alors, d'après les représentants de l'oligocratie maintenant, eh bien la décroissance est un accident de parcours. C'est une altération de la croissance économique mesurée par une diminution du PIB. Donc, par exemple, on va dire 2021 est en décroissance. Il y a une diminution du PIB. Mais c'est tout simplement un accident de parcours devant être résolu au plus vite afin de reprendre le processus d'augmentation régulière du PIB. De ce point de vue, les années 1975, 1993, 2009 à cause de la crise subprime et 2020 à cause du Covid ont été des périodes de décroissance. On va voir 2021, ce que ça donne, à mon avis, on va être encore en décroissance. Mais c'est rien à voir avec des croissances liées à l'inéluctabilité de l'essoufflement et de du déclin du processus économique. Là, ce sont des contraintes extérieures qui font décroître. D'ailleurs, tout le monde est bien embêté, en fait, pour... c'est un sujet très intéressant... pour analyser le paramètre, pour classifier ou pour placer le paramètre Covid dans la problématique de la décroissance. C'est intéressant, intéressant comme débat. Ensuite, pour les théoriciens de la décroissance inéluctable, c'est-à-dire nous, la définition de la décroissance, notre définition, sera identique à celle donnée par Roeggen, en précisant bien que ce terme ne sera employé que pour désigner un état constaté. Il paraît utile de préciser que, même dans le cas où son emploi porterait sur le pronostic d'un état à survenir, il ne pourrait être confondu ou mélangé avec les éléments constitutifs de sa survenue. Alors, de fait, notre acception de la décroissance se rapproche de celle des effondristes, c'est très très proche, parce que nous l'interprétons également comme une résultante inéluctable du processus industriel, mais à une différence importante, c'est que nous considérons qu'elle peut ou qu'elle doit être encadrée par un nouveau système économico-politique, ce que les effondristes ne traitent absolument pas, ne traitent pas l'aspect politique, susceptible précisément d'éviter l'effondrement. Donc eux, ils n'ont pas de remède contre l'effondrement. Voilà. Alors, de proposition. Alors, nous soutenons l'idée que la décroissance n'est pas une idéologie, ça n'est pas une philosophie et encore moins une religion. Bon, religion, c'est employé à terme, c'est employé de façon voulue, parce que, on peut très bien aller jusqu'à dire que les décroissants volontaires sont dans une sorte de religion. Bon, ça, c'est aussi un débat intéressant. Que c'est une évolution inéluctable quoi qu'on fasse, la décroissance est une évolution inéluctable quoi qu'on fasse, une évolution liée à la simple application des lois de la physique, loi de la physique dont la société industrielle a cru pouvoir s'affranchir, et que c'est une évolution dont la première phase est sans doute déjà amorcée, mais qui n'est pas visible à l'œil nu. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est tout le débat sur le PIB. Le PIB, en fait, c'est un indice qui est très mal compris. Bon, on peut dire ce qu'on veut sur le PIB, hein, bon, mais il est mal compris. À savoir que certains pensent que le PIB, c'est simplement un chiffre d'affaires, c'est-à-dire production. Notamment les décroissants volontaires qui disent on va faire diminuer le PIB. Mais le PIB, c'est plus compliqué que ça. Le PIB, en fait, c'est une soustraction. C'est une somme, c'est une valeur ajoutée, c'est-à-dire que c'est un chiffre d'affaires moins... Enfin, c'est la valeur des biens produits moins les consommations intermédiaires, c'est-à-dire moins la valeur des biens qu'il a fallu mettre en œuvre pour les produire. Donc, c'est pas aussi simple que ça, le PIB. C'est la raison pour laquelle le PIB, tel qu'il est calculé actuellement, il est en hausse. Alors, on va laisser de côté 2020 et 2021. Le PIB est en hausse, donc l'oligocratie dit nous sommes en croissance, le PIB est en hausse. Mais nous, on recalcule le PIB autrement, c'est-à-dire qu'on fait intervenir justement dans la valorisation des consommations intermédiaires, hein, notamment les variations de stock négatives, la diminution du stock des ressources naturelles finies, aussi bien énergétiques que minérales. Donc, pour faire simple, suivant la façon dont on calcule le PIB, et dont nous, décroissants inéluctables, on calcule le PIB, on est déjà en décroissance. C'est-à-dire que le PIB recalculé, il décroît. Bon, mais évidemment, ce PIB n'est pas validé par l'INSEE, qui lui le calcule de façon à ce qu'il décroît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décroissance n'est pas visible à l'œil nu par le consommateur ordinaire, parce qu'il y a toujours de l'essence dans les pompes à essence, il y a toujours des aliments dans les supermarchés. Donc, au niveau quantitatif, au niveau quantité de produits, donc PIB, chiffre d'affaires, au niveau du PIB, chiffre d'affaires, on est toujours en croissance. Par contre, le PIB, valeur ajoutée, lui, il est en diminution, et ça, il n'y a que nous qui le disons, et il n'y a que nous qui avons le mode de calcul pour le prouver. Bon, voilà. Là, on est sur un point un petit peu pointu, sur un débat qu'il faut pas ouvrir n'importe où et avec n'importe qui, parce que c'est un peu compliqué. Mais tout ce qu'on peut dire pour illustrer ça, c'est que il y a déjà une décroissance qui n'est pas visible, et que les gens ne se rendront compte de la décroissance que lorsqu'on passera à la phase visible. Mais avant la phase visible, il y a la phase invisible, et on y est déjà. Voilà. Donc, ça, c'est un des chantiers d'argumentation qu'on est les seuls à mener. Alors, la date de survenue de la phase visible, hein, toujours phase non visible, phase visible. La phase visible, c'est la seule qui va faire changer d'avis les gens. La phase invisible, ça ne les fera pas changer d'avis. Tu leur montres des équations. Bon, la phase visible, ça les fera changer d'avis. La date de survenue de la phase visible de cette évolution inéluctable dépend d'un certain nombre de facteurs et on ne peut pas la fixer avec précision. Voilà. Bon. Alors, en tant que théoriciens, nous efforçons de démontrer chiffre à l'appui que le système de la croissance est proche d'un état de banqueroute, c'est-à-dire d'une rupture fatale. Donc c'est ça, notre discours. C'est montrer que les calculs, les indices sont mauvais. En conclusion, nous affirmons et répétons que la question qui doit être posée, ça n'est pas de savoir s'il faut être pour ou contre la décroissance, mais bien plutôt de savoir comment et sous quelle forme il va être possible de s'adapter au déclin inéluctable de notre système industriel tout en évitant l'effondrement. Voilà, ça c'est le. Alors, ça c'est ce que j'appelle moi le glossaire contradictoire, parce que un glossaire non contradictoire, c'est uniquement le dernier paragraphe. C'est-à-dire, pour les théoriciens de la décroissance inéluctable. C'est-à-dire, voilà, nous, on pense que c'est ça. Mais on prend la peine de faire un éventail de toutes les autres acceptions. Hein? Voilà, c'est ça le principe du glossaire contradictoire.
Déjà le texte il est pas mal, il est plutôt dense, très dense. Du coup, par rapport à ça, effectivement, je comprends un peu mieux effectivement où se place en fait la décroissance au niveau de chaque, on va dire de chaque groupe entre guillemets politique ou économique. Effectivement, le PIB, c'est vrai qu'il y a, beaucoup dans un petit peu les écologistes qui l'utilisent un peu comme barème et un peu comme méthode en disant bon, ok, c'est en réduisant le PIB un petit peu le PIB pour que ça fonctionne, alors que le problème est plutôt c'est en termes de système qu'il faut raisonner. Il y a ça, il y a un autre problème qui est très masqué, et je pense que c'est masqué par la majorité des groupes. Hein. C'est tout simplement que déjà, en fait, l'indicateur lui-même, on va dire l'indicateur même de croissance est effectivement faux, mais en dehors du côté, on va dire, environnement et écologie. Ça concerne d'abord essentiellement l'économie, dans le sens où, actuellement, même si on compte pas, même si on ne compte pas l'écologie, enfin, la destruction de l'environnement, on est déjà en décroissance, tout simplement parce que les chiffres sont un petit peu faux. Dans quel sens? Dans le sens où, on va dire, depuis la crise de 2008, les États vivent en fait sous perfusion. Sous perfusion monétaire. Donc en fait, on injecte de l'argent et on donne l'impression qu'en fait tout va bien alors qu'en fait le système est en train de se casser la gueule. Ceci en cause de l'endettement des entreprises ou bien du fait que l'argent est en fait aspiré par les oligarques. Ce qui est en fait, c'est le même problème revient, hein. C'est aussi les oligarques qui sont responsables de ça. Et je pense que c'est important de le préciser parce que c'est l'une des autres raisons pour laquelle le système n'est pas bon. Donc, la présence des oligarques et le fait qu'ils ont libre activité fait en sorte qu'il y ait en fait déjà une sorte de problème dans le système économique. Et problèmes dans le système, et problèmes en fait l'environnement en lui-même. Et pour moi, je pense que c'est important de le marquer, de le présenter pour une bonne fois pour toutes ouvertement et de dire que bah, là où on est, le système est faux. Visuellement, ça semble très bien aller, mais visuellement, en fait, c'est faux. Parce que l'endettement augmente, explose, surtout l'endettement en fait, interne, l'endettement des ménages et ainsi de suite. Donc on se rend compte en fait, qu'on va aussi, en fait, sans le support, sans l'introduction d'argent, on serait déjà dans le mur. Bon, juste pour revenir en fait, effectivement, à la définition de la décroissance, effectivement, bon, on se rend compte qu'en fonction des personnes, il y a différentes définitions. Il y a certains qui n'assument pas en fait la totalité de la définition. Donc, ils se mentent un petit peu à eux-mêmes ou bien ils mentent volontairement. C'est essentiellement le cas des oligarques, un petit peu aussi des écologistes parce qu'ils refusent d'admettre qu'il y a un réel problème avec le système et qu'il faut absolument le changer. Bon. Les décroissants eux-mêmes, le parti de la décroissance, je ne le maîtrise pas suffisamment pour en parler. Bon, je ne vais rien dire par rapport à eux. Mais c'est vrai qu'effectivement, on se rend compte que les gens volontairement ou involontairement, ils ignorent les différents problèmes, enfin la profondeur du problème, et qu'il ne suffit pas juste de baisser un petit peu le PIB, de faire un petit peu de transition énergétique pour que ça marche. Ça marchera pas comme ça. Juste pour prendre un exemple, ce n'est pas en passant forcément aux voitures électriques que ça va marcher, puisque ça entraîne des problèmes encore d'extraction, de transformation qui nécessitent encore de l'énergie. Bref, c'est une course en fait dans le vide. On fait que refaire les mêmes erreurs qui vont entraîner d'autres problèmes, éventuellement plus graves, mais on ne les connaît pas encore. Donc, non, ceci pour dire qu'effectivement, bon, je trouve que l'argumentation est plutôt bonne par rapport à ça, et qu'il est effectivement très important de mentionner en fait ces différents aspects-là. L'aspect que déjà le système économique en lui-même, il est faux de base, hors écologie, hein. Hors environnement, il est déjà mauvais de base, mais si on ajoute encore l'écologie, alors là, ça empire nettement plus, quoi. Nettement plus, sans compter, on ne parle même pas du problème des inégalités, du fait qu'il n'y a plus vraiment de démocratie parce que ce sont des oligarques qui décident à notre place, le problème des lobbies qui sont des problèmes connus et qui imposent des règles qui ne sont pas forcément qui sont anti-environnementales. Voilà. Du coup, je ne sais pas ce que tu en penses.
Ah ben écoute, j'approuve des deux mains, des deux jambes, à 150%. Alors, lorsque tu dis que le PIB est faux, qu'on est déjà en décroissance, alors bon, tu dis la même chose que moi, sauf que moi je dis que ça, on n'arrive pas à le faire comprendre aux gens. Il y a la phase visible et la phase non visible. La phase visible, bon, on est d'accord, lorsque les gens seront confrontés à la phase visible, ils diront « Ah, oui, on y va. » Par contre, nous, on dit « Mais attendez, on y est déjà. » Mais non, on n'y est pas. Regardez, il y a toujours de l'essence dans les pompes à essence, il y a toujours de tout ce qu'on veut dans les gondoles, les supermarchés. Et là, tu dis, toi, « Oui, mais c'est parce qu'on injecte de l'argent. » C'est exactement ça. Mais tu sautes une étape. Tu la sautes pas, tu le sais très bien. C'est le PIB, justement, c'est le calcul du PIB. Le PIB, c'est une valeur ajoutée. On te dit, la valeur ajoutée augmente. Mais parce qu'on... Où est-ce qu'il est faux, le PIB? Il est faux au niveau de la valorisation des consommations intermédiaires, c'est-à-dire du truc qu'on soustrait. La valorisation des biens produits. Bon, ça, la valorisation, on fait tant de bagnoles, à tant de milliers d'euros la bagnole, ça fait un PIB de tant. Bon. Mais la consommation intermédiaire, ce que c'est les matières qui sont mises en œuvre dans l'élaboration du processus. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème, c'est là que les matières ne sont pas évaluées à leur juste valeur. Pour tout un tas de raisons, et notamment la raison la plus importante, bon, elle n'est pas facile à comprendre, c'est la fameuse variation négative de stock, hein, ce que Jean Covici appelle la dotation aux amortissements, mais comme il n'est pas comptable, il se trompe de compte. En fait, c'est un compte de classe 6, mais ce n'est pas un compte de dotation, c'est un compte de variation de stock. Qu'est-ce que c'est qu'une variation de stock? C'est quand tu as une entreprise... le premier jour de l'année, tu fais des stocks, tu as 1000 de stocks. Bon. Et puis, en fin d'année, tu fais le stock final, tu as 500. Bon. Voilà. Donc, si tu as 1000 en début d'année et 500 en fin de l'année, il y a une diminution de stock. Le stock, c'est rien. C'est un truc que tu n'utilises pas. Mais ça a une valeur. C'est ça le problème. Bon. Et donc, la comptabilité, elle le sait. Elle te met une charge de 1000 moins 500 égale 500, elle te met une charge de 500 qui impacte ton compte d'exploitation. C'est-à-dire que ça te crée un déficit. Bon. Et donc, ça n'est pas compté. Ça n'est pas compté parce qu'on ne comptabilise pas la valeur intrinsèque des ressources naturelles finies, on ne comptabilise que leur coût marginal, c'est-à-dire ce qu'il a fallu... payer pour l'extraire, ce qu'il a fallu payer pour le transporter, les royalties qu'il a fallu payer à celui qui s'est autoritairement attribué la paternité de la ressource, mais pas la valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur de la ressource de Dame Nature. La nature, elle est censée nous donner gratuitement. C'est faux. Voilà. Mm-hmm. Bon. Donc, il y a une variation de stock négative qui fait qu'au fur et à mesure que les ressources naturelles finies, de nature énergétique ou de nature minérale, diminuent, leur valeur augmente, leur coût. Leur valeur intrinsèque augmente parce qu'il y en a de moins en moins. Bon. Et donc, il y a 100 ans, bon, un litre de pétrole, ça valait, je dis n'importe quoi, X, ça valait 10 en francs constants. Aujourd'hui, le même, il vaut en francs constants 10 fois plus parce qu'il y a 10 fois moins. Ça, c'est l'incidence de la variation de stock négatif sur le coût intrinsèque, pas le coût marginal d'obtention de la richesse naturelle, mais le coût de fabrication par l'écorce terrestre. Bon, donc ça, cette composante que j'ai, bon, dans mon boulot sur le PIB, sur le chiffrage du coût intrinsèque des ressources naturelles, bon, j'ai proposé un mode de valorisation, enfin bref, ça fait des calculs un peu compliqués, mais bref. Mais l'idée, c'est ça. Donc, si on veut résumer en termes simples, on a des consommations intermédiaires qui sont sous-évaluées, mmh. Et du coup, effectivement, le PIB, il augmente. Mais si on les évalue comme il faudrait, c'est-à-dire en tenant compte de ça, et encore, je ne parle pas de toutes les incidences écologiques dont tu as parlé, la pollution, hein, qu'il faut compter aussi dans les consommations. Quand je consomme une tonne de pétrole ou une tonne d'uranium ou je sais pas, une tonne de fer, une tonne de cuivre, bon, j'ai créé tout un tas d'externalités négatives qu'il faut chiffrer. Et ça doit rentrer dans le coût de la consommation intermédiaire et ça fait donc diminuer le PIB. Tu comprends ? Voilà, bon. Et alors, bon, ça, c'est pas compté en niveau comptable. C'est-à-dire que ce n'est pas compté par l'INSEE lorsqu'elle te donne le résultat de son PIB. Mais c'est compté au niveau écologique. La nature, elle le compte. Et donc, tu te dis, comment ça peut marcher? Eh bien, ça marche grâce à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire la création bancaire ex nihilo qui fait que les ressources, le coût des ressources, hein, est alimenté par, disons, un apport financier. C'est le même, si tu veux imaginer le truc, tu as une société qui est en déficit. Société, hein, tu as une entreprise, elle est en déficit. Elle fait du déficit. Bien. En principe, quand tu fais du déficit, qu'est-ce que tu fais? Tu déposes ton bilan.
Oui.
Parce que tu ne peux plus payer tes fournisseurs et tu ne peux plus payer tes salariés. Sauf si on te donne de l'argent. Alors, si on te prête, ça te permet de passer d'une année sur l'autre, mais faudra bien que tu le rends un jour. Bon. Et donc, c'est ce que fait la société industrielle. Et là, on passe à l'impasse financière, c'est-à-dire l'impasse comptable. Comment tu te sors d'une impasse comptable? Avec un montage financier. Un montage financier. Soit c'est une impasse qui est temporaire, c'est-à-dire qu'il y a un apport, un prêt bancaire que tu vas pouvoir rembourser, mais tu ne peux le rembourser que si tu fais des excédents de gestion. Or, étant donné que le système continue à être déficitaire, le prêt bancaire ne pourra jamais être remboursé. Donc il y a de la création ex nihilo. Voilà. Donc, on a un PIB qui est en fait en diminution. Il est en diminution et pourtant, le système, normalement un PIB qui diminue, la valeur ajoutée diminue, l'économie s'écroule. Eh bien l'économie ne s'écroule pas parce qu'on fait un apport de liquidité qui en principe est un prêt qui devrait être remboursé, mais le prêt n'est pas remboursé, etc. etc. Et puis voilà, c'est une spirale sans fin qui, disons, qui ajoute ou qui corrèle La faillite comptable à une faillite financière. Donc c'est dit d'une autre façon ce que tu dis. Voilà. Alors donc comment est-ce que on peut, alors soit on ouvre ce front qui est un front extrêmement difficile à expliquer aux gens parce qu'il est très technique. Il faut d'abord expliquer que le PIB est réellement négatif. Alors là, les gens, ils vont dire, mais attends, je comprends pas, vous dites le contraire de ce que disent l'INSEE, c'est, hein, bon, c'est pas facile. Hein, bon. Et puis ensuite, il faut leur dire, tout en étant négatif, on arrive quand même à fonctionner grâce à la création bancaire ex nihilo. Voilà. Donc on va se prendre deux faillites pour le prix d'une, une faillite comptable et une faillite financière. Mmh. Voilà, bon, ça tu ouvres ce front il débouche sur quoi? Il débouche sur demain effectivement il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien dans les supermarchés, mais en plus il n'y a plus rien dans votre compte en banque non plus, parce que votre argent que vous avez il ne vaudra plus rien non plus. Trop loin, tu ouvres un sacré front là. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, donc oui, ben en fait je pense qu'il faut le faire. Alors ça c'est là, ça c'est le disons la, comment dire, le chapitre la décroissance qui n'est pas visible, qui est là mais qui n'est pas visible. C'est pas encore la décroissance inéluctable, c'est pas celle que vous allez voir, c'est celle que qui est là parce que nous on a calculé, on vous le démontre avec des équations, là, un système d'équations avec des fonctions orthonormées. Voilà, c'est...
Après, de toute façon, bon, essayer de dire pourquoi, pour quelles raisons les gens ignorent cette partie-là, soit je me dis, ils ne cherchent pas forcément à aller plus loin que ce qu'ils voient. Malgré toutes les preuves.
Oui, oui, mais des preuves qui, à toi, te paraissent des preuves, parce que tu as un esprit rationnel et puis tu as un esprit objectif et qui prend du recul. Mmh. Mais les gens n'ont pas envie d'entendre ce discours, et puis c'est un discours qui est relayé par personne, tu comprends? Lorsque tu as l'ensemble des médias qui dit une chose et simplement un petit groupuscule inconnu qui dit une chose différente, même si c'est la vérité, même si c'est l'exacte vérité, je veux dire d'un point de vue non pas philosophique, mais d'un point de vue scientifique, physique, eh bien, c'est pour ça que... Moi, c'est une argumentation que j'aime beaucoup, que je trouve extraordinaire, mais à laquelle, franchement, je ne crois pas, parce que la seule façon... On ne peut pas convaincre les gens de quelque chose qui leur est désagréable, tu vois. C'est la raison aussi pour laquelle moi j'ai vu les décroissants évoluer depuis ces 20 dernières années. Maintenant ils disent des choses agréables. Voilà, ils disent des choses agréables en disant voilà, on va avoir un revenu universel et on va avoir la joie de vivre, c'est le bonheur qui compte, etc. etc. Bon, c'est des choses que les gens ils aiment entendre. Tu leur dis qu'il ne va plus y avoir d'essence dans les pompes à essence, il ne va plus y avoir d'aliments dans les gondoles des supermarchés, et puis ils vont se réveiller un matin, leur compte en banque sera réduit à zéro. C'est des trucs, c'est pas agréable d'entendre. Tu vois, donc ils ont pas envie d'entendre. Voilà. Bon, je suis plutôt... Je suis plutôt tenté de dire il faut attendre que les choses se voient. Non, je suis plutôt tenté de dire ça ne me paraît pas jouable, si tu veux, d'agir avant. J'y crois
avant
pas.
Avant de voir les effets, quoi.
Voilà. Dire. Ouais, ouais. Je ne pense pas qu'on puisse convaincre les gens sur la base d'un raisonnement. Je ne pense qu'on peut les convaincre que sur la base de quelque chose qu'ils voient.
Mmh. Ben oui, bon, ça c'est...
C'est pour ça que je dis que notre discours, la candidature, c'est une candidature d'alerte. Mmh. Une alerte. Ne dites pas qu'on ne vous l'avait pas dit. Hein, c'est tout. Mmh. C'est tout ce que tu peux faire.
Ouais.
Mais si on pense qu'on va faire changer les gens, on risque d'être déçu.
Non, enfin, ça, moi, je dis que je ne fais pas d'illusions. Je pense que les gens ne voudront pas changer parce qu'ils ont trop peur. Ils ont un avis hyper négatif, une vision très négative, en fait, de la décroissance. C'est ça, en fait, le fond du problème. Ils ont une vision très, très négative du fait de changer de style de vie. Ils ont très, très... Bon, à la fois négative, mais à la fois aussi hyper réduite, parce que tout ce qu'ils ont vu, je vais dire, tout ce que les écolos les ont montré, ça ne les plaît pas du tout. Ça, ce n'est qu'une petite vision de ce qu'il faudrait faire. Une toute petite vision, quoi. S'ils connaissaient tous les fonds nécessaires pour pouvoir pour que les choses changent réellement, ils entreraient dans la rébellion.
Oui. Mais alors, ça c'est des considérations sur les gens, etc. Mais nous, qui sont exactes. Hein. Mais nous, quel est notre objectif? C'est ça qu'il faut se demander. Quel est notre objectif? Est-ce que c'est de séduire, de plaire, et donc de ramener des gens dans notre groupe, avoir plus d'adhérents? Ou bien est-ce que c'est de ne pas être contredit? Où est la plus grande satisfaction?
Je pense que la plus grande satisfaction, c'est effectivement de ne pas être contredit. Mais je me dis, même si c'est pas forcément vrai, parce que ça dépend des personnes que l'on a en face de soi, qu'une meilleure satisfaction, c'est effectivement de proposer quelque chose qui convainc. Non, c'est... Ce qui n'est pas vraiment possible non plus.
Si, alors, lorsque tu arrives à convaincre quelqu'un, ça veut dire déjà qu'il ne t'a pas, opposé des objections. Donc, soit il ne t'a pas posé d'objections, soit il a posé des objections et tu as répondu aux objections. Donc, du coup, il est convaincu. Parce que... Faut pas confondre conviction et puis croyance religieuse. Lorsque les gens vont à l'église et qu'ils écoutent le curé, ils sont pas convaincus, ils croient. Voilà. Ils croient ce qu'on leur dit. Voilà. Donc c'est une adhésion qui est une adhésion mentale. Nous on cherche pas l'adhésion religieuse, on cherche à convaincre. Bon, convaincre, ça veut dire que on va développer une argumentation et les gens vont soit dire oui, cette argumentation elle est exacte et donc je suis convaincu. Ils disent pas je crois, ils disent je suis convaincu. Ou alors ils opposent des objections, on répond aux objections et il est d'autant plus convaincu qu'il va se dire j'ai opposer des objections, on a répondu à mes objections, je me suis rendu compte que mes objections, elles étaient infondées, que les arguments qui m'ont été opposés sont des arguments qui ont fait tomber mes objections, donc je suis d'autant plus convaincu. Voilà. Bon. Il me semble que c'est ça notre travail, qui est un travail non pas de prêche, alors justement, le travail de certains groupes que je connais bien est un travail de prêche. C'est-à-dire, on va dire des choses qui plaisent aux gens. Parce qu'on s'est aperçu que quand on leur dit certaines choses, ça ne leur plaît pas, ils n'aiment pas, ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Ouais. Bon, on leur dit des choses qui leur plaisent. pour donner des choses qui leur donnent de l'espoir. Et là, ils viennent parce que ils viennent comme quand tu vas à l'église, parce qu'on te donne de l'espoir. Les gens vont à l'église parce qu'ils ont une angoisse existentielle. Et que le discours des évangiles, le discours des écritures, leur donne de l'espoir. Donc ils viennent, c'est pour ça qu'ils viennent. Bon. Et l'idéologie de la décroissance, d'une certaine façon, certaines mouvances, c'est ça. C'est que les gens ont. Il y a des gens qui ont des angoisses par rapport à un certain devenir. Donc ces grands prêtres de la décroissance leur font naître de l'espoir, leur disant il va y avoir la joie de vivre, ça va être formidable. Et donc les gens croient. Donc c'est la religion de la décroissance. Bon, nous on est dans une démarche cartésienne, une démarche cartésienne ou spinozienne, si tu veux, bon, qui est faite d'argumentation, d'émotion, et voilà. Et donc on propose aux gens non pas un évangile ou des écritures, on propose une argumentation. Cette argumentation, sa destination logique, c'est d'être contredite. Donc on attend les contradictions et on répond. Voilà, bon, c'est ça notre job. Et c'est de ce point de vue-là aussi, on doit le dire, on doit dire que c'est notre fonctionnement et qu'on ne fonctionne pas sur un mode d'adhésion, on fonctionne sur un mode de conviction et de persuasion et de démonstration.
Voilà. Ouais.